Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Les mots de la foi avec Elisabeth et Raymond, Guy est à la technique. Et eh bien, on ne se lasse pas hein, de vous parler du livre du Père Sesboué, L'homme merveille de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, j'espère qu'on vous fera sentir combien ce livre ouvre des perspectives, rajeunit notre catéchisme, pour parler dans le jargon ancien de l'Église, et nous fait revisiter ces notions qui paraissaient un peu vieilles, un peu, quelquefois, on se dit, un peu démodées. Eh bien non. La dernière fois, nous avions évoqué comment le fait que le Christ soit homme et Dieu a rendu la structure de l'homme sacramentelle. Et aujourd'hui, le Christ, bien, comme chacun sait, est monté aux cieux, est retourné vers le Père, dit qu'il est toujours présent par l'Esprit et par les sacrements qu'il a institués. Mais ceci renvoie donc à la mission de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu à l'aide du Père Sesboué. C'est la fin de son livre, De l'Église à la vie bienheureuse. On va donc voir comment cette mission de l'Église, qui nous donne les sacrements, qui rend présent le Christ, est importante. Le mystère de l'Église respecte la loi profonde qui a présidé au mystère de l'incarnation, nous dit-il d'emblée. Et il fait le parallèle entre le Christ, qui assume les limites de notre condition humaine, et l'Église, qui doit respecter aussi les conditions humaines, la vie en société qui est inscrite dans le temps et dans l'histoire.
Oui, parce que l'Église a partagé le sort de l'humanité tout au long de son histoire. Et elle doit toujours prêcher l'Évangile dans toutes les situations, que ce soit la générosité de la foi, la persécution, etc.
C'est, oui, quand ça va bien, l'Église doit être présente et doit annoncer Jésus-Christ, mais aussi quand ça va mal. Et quand les gens disent, mais pourquoi? Tous ces pourquoi auxquels on ne peut pas apporter de réponse. Et le Père Sesboué rappelle justement que ces pourquoi qui sont sans réponse, en fait, sont liés à la liberté. L'acte de liberté, la foi est un acte de liberté.
Oui, parce que Dieu nous sauve en nous respectant, en respectant ce que nous sommes. Et il ne veut pas que des hommes sauvés ne soient plus des hommes, c'est-à-dire ne soient plus libres.
Voilà, donc, salut lié aussi à la liberté et au choix de l'homme. Donc il y a en l'homme à la fois une humanisation qui se fait à partir de ce petit qui grandit, qui devient de plus en plus homme, mais qui par le baptême aussi se divinise, divinisation. C'est intéressant d'entendre que notre divinisation n'est en rien contradictoire à notre humanisation. Elle en est le sommet. Et bien évidemment la figure, le modèle, c'est le Christ.
C'est le Christ parce que Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, a donné des signes concrets de son universalité. Et pour donner des signes concrets de son universalité, il a fondé l'Église, l'institution de l'Église.
Oui, alors quand on dit qu'il a fondé l'institution de l'Église, en fait, il n'a pas dit qu'elle serait comme ci ou comme ça, mais il a appelé des hommes à être l'Église. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. C'est qu'en fait, l'Église, ce n'est pas des institutions, une structure, mais c'est appeler Pierre, Paul, Jacques et les autres, et puis appeler nous aussi, finalement.
Et c'est pour ça, parce que Jésus est le fondement de cette Église. C'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place, Jésus-Christ.
Et le Christ annonce aussi qu'il y est, et qu'il y est notamment par la Pentecôte, l'Esprit de Dieu donné à l'humanité.
Notre monde appelle des temps nouveaux qui prendront naissance avec la justice.
Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau et nous bâtirons.
Les temps sont accomplis.
Donc ça, c'est des événements. On fait allusion, là, à des événements relatés par les évangiles, mais des événements qui ne sont pas des événements simplement du passé, mais qui ont une actualité pour aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'Église doit réaliser encore cette présence du Christ parmi nous, cette présence de l'Esprit, et ce qui a entraîné des aspects sociaux.
Oui, parce que l'Église est une part de la société, elle vit dans une société, et la réflexion sur les aspects sociaux du dogme, elle est ancienne, et c'est quelque chose qui nous amène à lutter contre l'individualisme, etc.
Et c'est déjà au temps d'Église, puisqu'on se rappelle comment Paul propose aux Corinthiens d'aider les églises, l'église de Jérusalem notamment, qui est dans les difficultés. Donc cette solidarité entre les apôtres au début autour de Marie à la Pentecôte, mais elle se poursuit dès le début.
Oui, parce que dès les premiers temps de l'église, la vocation communautaire et sociale de l'homme a été mise en avant. Et ça a été l'idée que si le péché a eu pour conséquence la division entre les hommes, l'Église peut refaire l'unité entre les hommes.
Et ce qui est intéressant dans les propos du père Sesboué, c'est son interprétation, alors peut-être l'a-t-il prise d'ailleurs, mais enfin bref, en tout cas je la lis ici, son interprétation de la réflexion de Caïphe à propos de Jésus. C'est un avantage qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Et Jean, enfin le père Sesboué rapporte les propos de Jean, il fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation, non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité tous les enfants de Dieu qui sont dispersés. Donc, contre le péché qui est la dispersion et la division, eh bien, il y a cette unité réalisée par le Christ. Et dans ce dialogue avec le Père, le Fils est dans le Père est dans le Fils, et cette unité nous associe dans ce qu'on appelle le corps mystique.
Le corps mystique, c'est l'union des hommes entre eux et avec Dieu.
Et ça, nous y sommes, nous en faisons partie, mais il nous appartient aussi de le réaliser. C'est-à-dire que c'est déjà en soi, mais en fait, à réaliser à chaque instant.
Notre Église appelle un regard nouveau sur les Galilées où tu nous précèdes.
Fais souffler, Seigneur, un esprit nouveau, que nos yeux découvrent tes voies humaines.
Et ce qui amène aussi une réflexion sur ce qu'on appelle le catholicisme. L'Église est catholique.
Oui, catholique, ça veut dire universel. Mais le père Sesboué nous dit que l'Église était déjà catholique dans la minuscule communauté du Cénacle. Sa catholicité ne dépend pas de son extension géographique. Il ne s'agit pas seulement de ramener tous les hommes du monde entier. La catholicité, c'est quelque chose qui appartient à l'Église, qui la caractérise partout où elle existe, même s'il n'y a que deux personnes.
C'est-à-dire, en fait, c'est le Christ qui réalise cette catholicité d'emblée, dès l'origine.
Oui.
Des perspectives ouvertes qui sont bien intéressantes. Et cette Église, pour continuer à vivre du Christ et nous faire vivre du Christ et nous immerger dans le Christ, eh bien, c'est à elle que reviennent de délivrer les sacrements qui font l'Église. Alors, le baptême
qui incorpore l'Église.
Voilà. La pénitence qui réconcilie avec l'Église, comme signe de réconciliation avec Dieu, et pas catalogue de péchés ou de tout un tas de choses. Et l'Eucharistie, créé par le Christ lui-même. Et là, on voit bien que c'est lui qui a fondé l'Église. Là, c'est là, cette institution. La conclusion, c'est que l'Église ne peut se désintéresser de la situation de l'humanité et que ça, ça s'est fait très vite. Alors, tout à l'heure, j'évoquais Paul qui demande aux Corinthiens de participer à une collecte pour l'Église de Jérusalem, mais aussi, très tôt, alors on évoque Basile de Césarée, l'inventeur des hôpitaux, et on peut voir que dans l'histoire, effectivement, l'Église a souvent été à l'origine d'initiatives, de charité, de justice. Et au XIXe siècle, on parle de catholicisme social, avec notamment, rappelons-le, les grandes encycliques.
Oui. Et le père Sesboué dit que l'expression de catholicisme social pourrait être considérée comme un pléonasme.
Voilà, ce qui dit catholicisme dit obligatoirement sociale. Dimension sociale. Bon, alors rappelons les encycliques.
Alors, il y a eu en 1893 Rerum Novarum de Léon XIII, puis en 1933 Pie XI avec Quadragesimo Anno, qui est là 40 ans après Rerum Novarum, Mater Magistra de Jean XXIII, Centesimus Annus de Jean-Paul II, et puis...
On pourrait rappeler Laudato si, où on associe aussi l'injustice vis-à-vis des générations futures. Donc, des textes qui rappellent les grands principes de la morale et de la justice et qui s'adaptent au temps, aux sociétés, aux problèmes économiques et politiques. Et pourtant, il y a à la fois cet aspect positif des choses et en même temps, quand on regarde le rôle de l'Église dans l'histoire, le jugement est quelquefois un peu sévère.
Bah oui.
Et avec justice ou justesse.
Alors aujourd'hui, l'Église est invitée à la modestie, ce qui change un peu des siècles passés. Et on lui rappelle régulièrement ses faiblesses historiques.
Voilà, l'Inquisition ou les croisades.
Oui.
Bon, et d'autres. Mais en même temps, il y a peut-être effectivement la séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, le schisme de 1054, ou bien les ruptures qui ont provoqué la réforme. Donc, des divisions dont on peut considérer que c'est ça le péché. Mais aussi, dans la vie quotidienne, des tas de gens qui, inlassablement, construisent des royaumes et qui sont... il y a ceux qui sont connus et qui sont canonisés. Et puis, il y a les autres qui travaillent à la justice, au développement, à la paix. Et on peut aussi dire que, d'une certaine manière... L'Église a été un agent de civilisation, cette sainteté d'un Vincent de Paul ou bien d'un Maximilien Kolbe pour les temps les plus récents, a joué un rôle dans la civilisation. Par exemple, pour faire tomber l'esclavage, quand même, le rôle de l'Église, de ses idées, est important. Et puis en même temps, on lui reproche son triomphalisme ou bien... Et j'avoue que la conclusion du père Sesboué pour ce paragraphe me paraît tout à fait intéressante.
Il est remarquable que l'influence de l'Église s'est exercée bien au-delà des frontières de l'Église et continue à marquer aujourd'hui fortement la tradition de l'Occident, même quand celle-ci a tenu à se laïciser. Par exemple, les trois grandes valeurs de la Révolution française, liberté, égalité et fraternité.
Voilà, qui tirent leur fondement, donc, de l'enseignement de l'Église et au-delà de l'enseignement de Jésus-Christ. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Bonne semaine à tous, au revoir.